Et bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 1er. Nous allons lire les 11 premiers versets. Philippiens chapitre 1, donc les 11 premiers versets. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Et cet après-midi, je voudrais aborder la question de la confiance ou de l'assurance. Dans la vie du croyant, je pense que vous serez d'accord avec moi, qu'il y a des occasions où nous pouvons être troublés, où nous pouvons nous poser des questions concernant notre situation, concernant notre avenir. Nous sommes conscients de nos échecs, de nos faiblesses. Nous voyons nos chutes trop fréquentes et nous pouvons parfois douter. C'est vrai sur le plan personnel, dans la vie de chaque chrétien. C'est aussi vrai dans le plan plus large de l'Église. Nous voyons des choses dans nos vies, nous voyons des choses dans la vie de l'Église et on se pose des questions. Il semble ne pas y avoir de progrès, il semble que les choses n'avancent pas, que ce soit sur un plan personnel ou que ce soit sur un plan de l'Église. Et on se pose des questions, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Le danger, bien entendu, est de se replier sur soi-même. Le danger est d'essayer de se convaincre que tout ira bien parce que nous croyons les bonnes doctrines ou parce que nous avons les meilleurs prédicateurs, les meilleurs pasteurs ou parce que nous avons les meilleurs livres. Mais est-ce que cette confiance peut véritablement venir de nous? Est-ce que cette assurance peut véritablement dépendre de ce que nous sommes? Quand l'apôtre Paul écrit cette lettre, l'apôtre est en prison. L'apôtre est attaqué. Certaines personnes veulent détruire son ministère, veulent jeter un peu le discrédit sur l'œuvre que Dieu lui avait donné de faire. Il va l'écrire dans les versets suivants que nous n'avons pas lus, mais que certaines personnes veulent essayer de détruire ce que l'apôtre Paul a fait, ce que Dieu a donné de faire à l'apôtre Paul. Et pourtant, quand Paul écrit cette lettre à cette jeune église, il est confiant. il est certain, il est persuadé. Il exprime sa joie tout au long de cette lettre. Il exhorte les Philippiens à se réjouir. Rappelez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. Il exprime sa reconnaissance, et nous l'avons lu, il exprime sa prière, il désire que ces Philippiens grandissent dans la connaissance, dans la foi, dans l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que l'apôtre va écrire dans cette lettre dépend de ce qu'il a dit au verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Je suis persuadé. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Paul est confiant ? Parce que le croyant, le véritable chrétien, le véritable enfant de Dieu est une personne dans laquelle ou chez qui une œuvre est en train d'être faite. L'Église, la véritable Église, pas l'édifice ou pas j'ai oublié le mot, la dénomination, mais la véritable Église composée de véritables croyants, d'enfants de Dieu, des personnes nées de Dieu, est un endroit où quelque chose est en train d'être fait, une œuvre est en train d'être faite. Et la première chose qu'il faut souligner, c'est qui est l'auteur de cette œuvre. Paul ne parle pas de l'œuvre que lui, il a accomplie. Paul, rappelez-vous l'histoire, est arrivé en Macédoine pour annoncer l'Évangile. Il a prêché près de la rivière à un groupe de femmes qui se réunissaient. Rappelez-vous de son entretien avec Lydie. Il a prêché à d'autres. Il a été emprisonné. Il a prêché aux gardiens de la prison. L'église qui est à Philippe, à laquelle il écrit cette lettre, est une église qui est née sous le ministère de l'apôtre Paul. Mais quand il écrit cette lettre, il ne parle pas de son œuvre. Il parle de l'œuvre de Dieu, que Dieu a accomplie au travers de lui, au travers de son serviteur. Et c'est la marque du véritable serviteur de Dieu. Le serviteur sait qu'il n'est qu'un messager, sait qu'il n'est qu'un outil entre les mains de Dieu. Quand il rend compte à l'église qui est à Jérusalem, en acte 14, quand Paul et Barnabas reviennent de leur voyage, on lit ceci en acte 14, verset 27. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent, est-ce que c'est dit tout ce qu'ils avaient fait ? Non, il est écrit tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Paul ne dit pas que c'est lui l'auteur. Paul ne dit pas non plus que ce sont les Philippiens qui sont l'auteur. Ce ne sont pas les Philippiens qui ont décidé de devenir croyants, qui ont décidé de former une église. La naissance d'une église n'est pas comme une création d'entreprise, n'est pas comme la création d'une association, d'un club. On peut commencer quelque chose, on peut s'associer parce que on partage certaines idées ou on partage un même hobby. Un même passe-temps. Mais l'Église ne commence pas de cette manière. C'est Dieu qui œuvre. C'est lui qui appelle. C'est lui qui agit. C'est vrai sur le plan de l'Église, c'est vrai sur le plan personnel. Et nous l'avons abordé hier soir. Le salut est entièrement l'œuvre de Dieu. Nous l'avons vu, je rappelle simplement ce que Paul dit en Éphésiens, que l'homme est mort. L'homme est incapable de venir à Dieu par lui-même. Il est incapable de se donner la vie. Il faut que ce soit quelqu'un qui est la vie en lui-même, qui possède la vie, qui est l'auteur de la vie. Il faut que cette personne donne la vie. Cette personne est en Christ, Dieu avec nous, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il donne la vie à son peuple. Et Paul ne dit pas simplement que l'auteur est Dieu au début de cette œuvre, mais qu'il l'est du début à la fin. Il dit qu'il a commencé en vous cette œuvre et il la rendra parfaite. Il a commencé en vous cette œuvre et il la va continuer jusqu'à ce qu'elle soit terminée, jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Il ne va pas commencer quelque chose et puis dire, bon, ben maintenant, je m'en inquiète plus, je laisse, ça va suivre son cours et on verra où ça arrive. Non, il va diriger, il va contrôler, il va nous conduire jour après jour, instant après instant. Dans le passage d'Éphésiens que nous avons vu hier, nous avons vu au verset 10 que Dieu a préparé de bonnes œuvres. C'est lui qui les a préparées afin que nous les pratiquions. Mais c'est lui qui non seulement appelle les âmes à Christ, mais qui les conduit, qui les garde et qui accomplit son œuvre et qui va la mener à la perfection. Déjà là, il y a un réconfort, il y a une assurance de savoir que c'est Dieu qui est l'auteur et qui est l'auteur jusqu'au bout. En 1 Pierre, chapitre 2, l'apôtre Pierre utilise une autre image. Il parle que de l'Église comme étant le temple de Dieu, comme étant la maison de Dieu. Et c'est lui qui ajoute des pierres vivantes. Il va les façonner. Et il va les rajouter une après une, afin que l'édifice grandisse et que chaque pierre ait sa place. L'Église n'est pas un club religieux. L'Église n'est pas le fruit des idées de l'homme. L'Église est l'endroit où Dieu est à l'œuvre. C'est lui qui est à l'œuvre, qui appelle des âmes, des hommes, des femmes à Christ et dans lesquels il va travailler. Il va les transformer jour après jour à l'image de son Fils. Et il va continuer cette œuvre jusqu'à la rendre parfaite. N'y a-t-il pas déjà là une assurance, une confiance? La deuxième chose que nous voulons souligner, c'est la nature de cette œuvre. Si l'auteur, c'est Dieu, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas même une collaboration entre Dieu et l'homme, c'est Dieu et lui seul. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est la nature de cette œuvre. Et l'apôtre écrit ceci, que celui qui a commencé, il ne dit pas « parmi vous », mais il dit « en vous ». Et c'est quelque chose de vital, parce que Paul parle ici de la nouvelle naissance, de la régénération, nous l'avons vu hier soir, de cette nécessité d'une recréation, que l'homme qui est en Christ est non pas une créature améliorée, mais une nouvelle créature, une nouvelle création. ce n'est pas une amélioration. Le chrétien n'est pas simplement un homme qui devient meilleur. C'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui a la vie de Dieu en lui. Il est véritablement enfant de Dieu. L'Évangile ne se préoccupe pas de rendre les gens meilleurs. L'Évangile touche le cœur. Christ vient et donne un cœur nouveau. C'est la plus grande expérience qu'un être humain puisse connaître. Être né de nouveau. Avoir la vie de Dieu en nous. Et de pouvoir dire avec l'apôtre Paul, par exemple aux Galates, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Brièvement, comment est-ce que cela se passe? La première chose, c'est que Dieu va nous amener à réaliser notre condition. Il va ouvrir nos yeux pour que nous voyons que par nature, nous sommes perdus. Par nature, nous sommes morts. L'Esprit de Dieu va nous amener à voir que nous sommes séparés de Dieu, nous sommes sous la condamnation de Dieu, qu'il n'y a aucune vie, aucun désir spirituel, aucun amour pour Dieu qui est là au fond de notre cœur. Nous ne sommes pas sur un terrain neutre, nous sommes par nature en route vers l'enfer. Certains ont peut-être un intérêt religieux, mais même cela, nous l'avons vu hier soir, n'est que le fruit de la chair, n'est que péché. Parce que l'homme va essayer d'imaginer un Dieu à son image. Un Dieu qu'il peut contrôler. Un Dieu qu'il peut juger. Un Dieu qu'il peut critiquer, qui n'est qu'une invention de l'homme. Mais Dieu va révéler la condition, notre condition naturelle. Et puis l'Esprit va ensuite créer en nous un désir pour venir, et il va nous faire entendre cette voix, cet appel, cette invitation de l'Évangile. Il va nous faire réaliser que par nature, nous avions vécu une vie centrée sur nous-mêmes, que nous étions comme les autres, que nous suivions le train de ce monde, que nous vivions une vie où Dieu n'avait aucune place. Parfois même, il va nous amener au désespoir. Relisez chez vous le psaume 107, nous en parlions tout à l'heure, où le psalmiste va utiliser quatre images de différentes personnes, quatre expériences différentes. Mais à chaque fois, il y a ce refrain où ils sont amenés au plus profond du désespoir. Mais dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, parce qu'ils n'avaient plus aucun espoir. Et l'Éternel les délivra. Dieu va, par son Esprit, nous montrer que sans Christ, nous ne pouvons rien. Et que nous avons tout pleinement en Christ. Il va nous montrer sa perfection. Il va nous montrer la beauté de son œuvre, la gloire de son œuvre. Il va nous montrer la valeur, comme nous avons commencé à aborder hier soir. Le prix, comme le prix de cette pierre précieuse, cet éclat qui se révèle sur le coussin qui est noir, il va nous révéler l'éclat de la personne de Christ devant la condition perdue, notre condition perdue. Il va nous révéler la beauté, la perfection de Christ. Il va nous révéler que l'œuvre que Christ est venu accomplir est une œuvre qui est parfaite. Qu'il n'y a rien à rajouter. Christ a tout accompli. pour réconcilier son peuple avec Dieu, pour réconcilier ceux qui sont à Christ avec Dieu. Il n'y a rien à rajouter. Et par son esprit, il va nous aider à nous saisir de Christ, à nous confier en Christ, à nous aider à nous dépendre de lui pleinement. Il nous donne cette vie nouvelle dont nous avons tellement besoin. Il va nous faire prendre conscience que, oui, nous sommes nés de nouveau. Nous n'allons plus aimer ce que nous aimions. Nous n'avons plus les mêmes désirs. Nous allons commencer à rechercher ce que autrefois nous haïssions. Nous allons commencer à chercher et à aimer la parole de Dieu. Nous allons commencer à aimer être en compagnie des enfants de Dieu plutôt que d'être en compagnie avec le monde. Nous allons commencer à aimer la communion avec Dieu et avec ses enfants. Et puis nous allons réaliser qu'il y a une bataille, même au sein de notre propre cœur. Qu'il y a, comme l'apôtre Paul l'écrit en Romains chapitre 7, qu'il y a en nous une loi qui est contraire à la loi de Dieu. Ou comme l'apôtre Paul dit, je ne sais ce que je fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ce qui est bon n'habite pas dans ma chair. J'ai la volonté, mais j'ai non le pouvoir de faire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, selon cet homme, cette nouvelle nature qui a été créée. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, en avançant dans la vie chrétienne, on réalise que ce conflit durera aussi longtemps que nous serons sur terre. Cette ancienne nature est toujours là. Il y a ce conflit. Mais l'œuvre, nous dit l'apôtre Paul, que Dieu a commencée, il va l'amener à la perfection. Il va utiliser des moyens, il va utiliser sa parole, il va utiliser des échanges et la communion fraternelle, les occasions comme celle-ci, par exemple, où nous pouvons ensemble nous placer à l'écoute de sa parole. Il va transformer nos vies à l'image de Christ. Il va utiliser même nos circonstances, même les choses que l'on pense être négatives. Paul le dit en Romains 8. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, les choses bonnes, les choses agréables, mais les chutes, les difficultés, la perte de notre santé, par exemple, ou la perte de l'affection des membres de notre famille, même des choses difficiles, même des choses pénibles. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses sont entre ses mains et il les fait en sorte qu'elles agissent pour notre bien. Il a commencé une œuvre et il va la mener à la perfection. Être véritablement chrétien, un vrai chrétien, c'est expérimenter cette œuvre que Dieu fait dans le cœur. C'est de pouvoir regarder en arrière et de le voir à l'œuvre tout au long de notre vie jusqu'à aujourd'hui, et de pouvoir regarder vers l'avenir en nous appuyant sur ce qu'il dit, en nous appuyant, en revoyant ce qu'il a déjà fait dans le passé, en voyant comment il nous a conduits, comment il nous a fait avancer. Il y a des événements dans notre expérience, que ce soit personnelle ou dans l'expérience de notre vie, de la vie de l'Église, que nous ne comprenons pas toujours. Parfois, nous le comprenons un peu mieux quand, après des années, nous regardons en arrière et nous pouvons comprendre un petit peu pourquoi Dieu nous a fait passer par ces expériences. Mais parfois, nous n'aurons jamais la réponse. Mais ce que Paul dit ici reste vrai. Dieu a commencé en vous une bonne œuvre et il la rendra parfaite. Et il la rendra parfaite pourquoi ? Pour nous préparer pour le jour de Jésus-Christ. Paul ne dit pas pour le jour de notre mort, mais pour le jour de Jésus-Christ. Ce jour où toutes choses viendront à leur fin, parce que tous ceux que Dieu a choisis seront venus à lui, auront entendu son appel. Dieu a fait cette promesse dès le jardin d'Éden, dès tout de suite après cette désobéissance d'Adam et Ève. Nous l'avons vu hier soir. Ce salut d'un peuple n'est pas la roue de secours. Dieu ne s'est pas pris, n'a pas été pris au dépourvu par la désobéissance d'Adam et Ève. Non, le salut était prévu depuis toute éternité. Jésus est l'agneau qui a été immolé depuis toute éternité, avant même la fondation du monde. Et ce plan, ce salut se déroule jusqu'au retour de Christ. L'apôtre Paul le dit par exemple dans cet autre passage en Romains chapitre 8, les versets 19 et suivants, où il dit ceci aussi: la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Que tout le peuple de Dieu soit connu, soit vu de tous, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre cœur, de notre corps, pardon. Toute la création attend ce jour où Christ revient dans la gloire, où les morts ressusciteront, les uns pour être avec lui pour toujours ceux qui ont été unis à Christ par la foi, les autres pour le jugement, pour la punition éternelle. Et Paul écrit donc à cette église en leur disant, prenez courage, Dieu est à l'œuvre. Vous allez persévérer, vous allez continuer, vous allez progresser parce que Dieu a commencé en vous une œuvre. Et c'est lui qu'il vous amène à, et qu'il vous prépare jusqu'à ce jour où Christ revient dans la gloire. Beaucoup de choses peuvent vous arriver, mais vous êtes entre les mains de Dieu. Et quand Christ revient dans la gloire, tous ceux qui lui appartiennent seront prêts pour entrer dans cet héritage, pour entrer dans cette demeure qu'il a préparée pour nous, pour être avec lui dans la gloire. Rien ne manquera parce que Dieu aura accompli son œuvre. Il l'aura amené à la perfection. Quel réconfort, quelle assurance, quelle confiance l'apôtre Paul manifeste ici. Le monde peut tout nous enlever, mais il ne pourra jamais enlever ce qui est incorruptible, ce qui est éternel, ce qui vient de Dieu. Il ne pourra jamais détruire cette vie nouvelle que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et Paul donc dit, pour terminer, son assurance, sa confiance. Il ne parle pas, il n'utilise pas le langage du doute ou de l'incertitude. Il n'est pas en train de dire « je pense que » ou « j'ai fait un rêve » ou « d'après mes calculs, il est possible que » Non. Il dit « je suis persuadé. Je suis sûr. » Et d'où vient sa persuasion? D'où vient son assurance? Elle ne vient certainement pas de l'homme, mais elle vient de celui qui a commencé cette bonne œuvre, de Dieu lui-même. Dieu est parfait. Dieu est tout-puissant. Rien ne peut l'arrêter dans son œuvre. Il a donné toute chose à son Fils, au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui bâtit son Église. Personne, ni même les portes de l'enfer, ne pourront prévaloir contre lui. Personne ne pourra l'arrêter dans son œuvre. Dieu n'est pas impuissant, où il ne manque pas de puissance. Personne ne va venir l'arrêter. Il ne va pas commencer quelque chose qu'il va réaliser, qu'il est incapable de terminer. Non. Rien, personne ne pourra l'arrêter. Christ est ce fondement qui a été posé une fois pour toutes. Il n'y a aucun autre fondement. Il est la pierre angulaire. Il est cette pierre qui soutient tout l'édifice. Est-ce que Dieu va donner l'essentiel et puis s'arrêter là? Non. Il bâtit l'Église. Il ajoute des pierres vivantes jour après jour. Il taille, il transforme, il nous fait grandir à l'image de son Fils, jour après jour, afin que chacun prennent sa place et que tout ce peuple devienne complet pour ce jour où Christ revient dans la gloire. Est-ce que nous sommes conscients cet après-midi que Dieu a commencé en nous cette bonne œuvre? Est-ce que nous sommes conscients que nous n'avons pas simplement un intérêt religieux, mais que véritablement quelque chose s'est passé, qu'il y a eu cette nouvelle création, cette vie de Dieu en nous? Vous allez me demander, mais comment est-ce qu'on peut le savoir? Très brièvement, ici, l'apôtre dit deux choses. Il va parler au verset 5 de cette communion dans l'Évangile. La part que vous prenez à l'Évangile. L'un des signes de cette vie nouvelle, c'est que l'enfant de Dieu a soif de connaître Christ. Il a soif de connaître Dieu et de comment Dieu se révèle-t-il par sa parole. Qui est la meilleure révélation de Dieu? C'est la parole faite chair, qui est Christ. L'auteur de la lettre aux Hébreux parle dans les premiers versets de sa lettre que Dieu autrefois a parlé à plusieurs reprises et de différentes manières par les prophètes. Et dans ces derniers jours, il a parlé par son Fils. La meilleure, la plus parfaite des révélations de Dieu, c'est en Christ et en lui seul. La parole faite chair. Et l'un des signes de cette véritable vie nouvelle, c'est ce désir de connaître Christ. Et par Christ, connaître Dieu. C'est de passer du temps avec les frères et sœurs au pied de la parole, d'être instruit, de passer davantage de temps avec les frères et sœurs, avec Christ, qu'avec le monde. La communion dans l'Évangile. Et la deuxième chose que l'apôtre dit, il fait allusion dans le verset 7 en parlant de la confirmation et de la défense de l'Évangile. C'est de nous centrer sur ce qu'est l'Évangile, qui est la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Ne pas avoir honte de l'Évangile de Christ. Ce n'est pas un message d'œuvre, ce n'est pas un message religieux, mais c'est ce message de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et qu'en Christ, nous avons tout pleinement. Il y a d'autres signes, nous avons fait allusion. Pendant ce message, il y a cette réalité de la prise de conscience de ce conflit qui existe. Quelqu'un qui a la vie de Dieu, qui est né de nouveau, qui a cette nouvelle nature, qui a maintenant le désir de plaire à Dieu, le désir de le suivre, de lui obéir, réalise que dans son cœur, il y a une nature, une loi qui s'oppose. Et qu'il l'amène à chuter trop souvent. Mais il y a aussi cette reconnaissance, toujours plus grande, que devant la situation, la condition désespérée dans laquelle nous étions par nature, Dieu nous a cherchés là où nous étions. Il nous a cherchés alors que nous étions ses ennemis et nous a réconciliés Alors que nous étions morts, il nous a donné la vie. Alors que nous étions dans les ténèbres, il nous a donné la lumière. Il nous a amenés dans son royaume de lumière. Il y a une prise de conscience toujours plus grande que ce n'est pas nous qui l'avons fait. Mais c'est Christ, c'est Dieu lui-même qui le fait en Christ. Par la foi, par cette union dans laquelle il nous a fait entrer avec son Fils. Est-ce que nous voyons cela dans nos vies? Est-ce que nous sommes conscients que Dieu travaille, qu'il a commencé en nous cette œuvre? Regardons, cherchons ces signes si nous ne les voyons pas. Et si nous ne les voyons pas dans notre vie, posons-nous la question. Est-ce que je connais véritablement Christ? Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que véritablement Dieu a effectivement commencé une œuvre en moi? Ou est-ce que simplement j'ai un petit intérêt pour les choses spirituelles? Si tel est le cas, l'invitation de l'Évangile est toujours là, de venir à Christ, de venir à Christ et à lui seul. Et pour ceux qui peuvent voir, même au milieu de toutes les imperfections, de voir qu'il y a un jour, Dieu a touché notre cœur, qu'il nous a fait faire un demi-tour, qu'il a commencé en nous cette œuvre, et nous sommes bien loin de la perfection, nous chutons quotidiennement. Mais nous pouvons dire, non, Dieu a commencé quelque chose. Aujourd'hui, si nous pouvons regarder à cela, ayons à ce moment-là cette assurance, cette conviction, cette persuasion que l'apôtre Paul avait, que Dieu a commencé, si Dieu a commencé en nous cette œuvre, cette bonne œuvre, il va l'amener jusqu'à la perfection pour le jour de Christ. Ne nous appuyons pas sur nous-mêmes, sur ce que nous pouvons faire, sur nos œuvres, mais regardons à Dieu, regardons à lui seul. Il est l'auteur de cette œuvre. Et s'il l'a commencé dans nos cœurs, qu'il nous donne cette assurance de pouvoir dire avec l'apôtre Paul, « Je suis persuadé que s'il a commencé, que celui qui a commencé cette œuvre, il va l'amener à la perfection pour le jour du Christ. Et personne ne pourra l'arrêter, personne ne pourra l'empêcher d'accomplir son œuvre. » Paul le dira autrement aux Romains, et je termine avec ce passage. En Romains chapitre 8, il dit que personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est Romains chapitre 8, on peut lire à partir du verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a délivré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai l'assurance, Paul dit aux Philippiens, je suis persuadé. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va la mener jusqu'à la perfection pour le jour de Jésus-Christ. Que Dieu nous donne d'avoir cette assurance, que Dieu nous donne d'avoir cette confiance en lui, en dépendant de lui, de réaliser que nous sommes dépendants de lui en toutes choses, mais que en étant entre ses mains, personne ne pourra nous séparer de lui. Personne ne pourra l'empêcher de compléter son œuvre et de nous amener à la gloire, où nous verrons notre Seigneur face à face et où nous pourrons servir notre Dieu sans péché, sans imperfection, mais d'une manière parfaite pour l'éternité. À lui soit la gloire. Amen.